En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Alors en effet, mon exposé sera un peu différent, quoique on va se retrouver un peu sur des questions posées par René Girard, auxquelles je ne souscris pas tellement non plus, comme vous allez le voir. En introduction, je voudrais juste vous dire deux choses, à savoir que la guerre est évidemment omniprésente dans la Bible, pas seulement dans la Bible hébraïque ou dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, parce que parfois on a cette idée que voilà, le Nouveau Testament, c'est le message de la paix qui met fin à ces dieux guerriers de l'Ancien Testament. Mais il suffit de lire en fait le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, où en effet tout se termine dans une immense guerre contre les forces du mal, qui en effet vont être vaincus pour permettre une nouvelle création. Mais c'est très guerrier, si vous avez rien à faire, relisez l'Apocalypse de Jean et vous voyez l'omniprésence de la guerre. Mais c'est surtout en effet la présence des guerres dites humaines. Encore que, on va pas pouvoir faire cette différence entre les guerres divines et les guerres humaines, comme je voudrais vous le montrer. Mais c'est surtout, en effet, cette présence-là qui a souvent posé problème et qui pose problème aux lecteurs de la Bible, qui, en effet, interrogent et qui peuvent paraître, en effet, choquants. Néanmoins, nous avons là affaire à une conception qui est commune aux cultures du Proche-Orient ancien. J'aimerais commencer par quelques remarques étymologiques qui sont assez intrigantes, en fait. La guerre, en hébreu, s'appelle milchama. Milchama, ce qui traduit par bataille, combat, guerre, venant d'une racine, lacham, qui, en effet, se trouve aussi dans d'autres langues sémitiques, et qui veut dire être serré, s'affronter, se battre. Mais en même temps, vous avez un substantif, lechem, qui veut dire la nourriture ou le pain. Alors, qu'est-ce que la nourriture a à voir avec la guerre ? On peut dire ces deux racines différentes. Mais vous avez des expressions comme par exemple l'épée qui mange, l'épée qui dévore en hébreu, hein, achal. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que dans les sociétés du Proche-Orient ancien, la guerre est quelque chose d'aussi vital, aussi nécessaire que la nourriture ? Est-ce qu'il y a un lien entre guerre et nourriture ? Une autre opposition qui est très courante, c'est d'opposer la guerre à la paix. Mais là aussi, dans le Proche-Orient ancien, ce n'est pas aussi simple. D'abord, ce qu'on traduit par paix, shalom, également attesté dans d'autres langues sémitiques, signifie quelque chose de complet, de plein, la plénitude. Et correspond en fait au concept égyptien de la ma'at, c'est-à-dire d'un ordre qui est posé par un ou des dieux créateurs, hein, un ordre qui est fragile puisque en fait la ma'at, comme vous le voyez ici, elle est en effet toujours représentée d'abord simplement par une plume ou alors par une déesse coiffée de cette plume. Donc cette opposition entre guerre et paix ne correspond pas à la réalité proche-orientale. Parce que milchama et shalom, en fait, vont ensemble pour s'opposer en fait au chaos, au désordre. Ça, c'est ce qui était très bien montré par Eckhart Otto dans ce livre sur la guerre et la paix dans la Bible hébraïque et dans le Proche-Orient ancien. En fait, la guerre comme la paix, sont en effet deux concepts qui s'opposent à un autre concept qui est le concept en fait du chaos. Et c'est pour cela que vous avez dans le Proche-Orient ancien toute une série de récits de création où en fait la création c'est une guerre. La création c'est un combat contre le chaos. Combat nécessaire pour que le monde ordonné puisse en effet apparaître. Je vous rappelle simplement le mythe peut-être le plus connu, qui est Enuma Elish, recopié du deuxième, premier millénaire, en fait, qui montre que à l'origine du monde, vous avez en effet une guerre entre les générations divines. C'est un peu aussi comme chez Hérodote. Chez Hésiode, où en effet vous avez d'abord un couple divin, Tiamat et Apsu, qui engendre toute une série de divinités, et Apsu veut en effet dévorer ses enfants pour toutes sortes de raisons, ce qui provoque après une guerre de Ea et de ses frères contre Apsu, qui est tué. Et du coup, Tiamat, qu'il faut s'imaginer un peu comme ici, comme une sorte de dragon, monstre aquatique, qui va maintenant vouloir, avec une armée qu'elle met en place, se battre et puis anéantir ses propres enfants. C'est Tiamat, finalement, est en effet tué par Marduk. Et Marduk, qui, par ce fait-là, accède, en effet, au Panthéon, qui devient en fait le chef du Panthéon babylonien, qui d'abord était une simple divinité locale de Babylone, mais qui devient le grand dieu parce qu'il a tué Tiamat. Et qu'est-ce qu'il fait avec la Tiamat tuée? Il l'utilise comme matériel pour créer le monde. C'est-à-dire le dépouille de Tiamat, ça devient le firmament. Les deux yeux de Tiamat deviennent les sources de l'Euphrate et du Tigre. Et à savoir, en fait, le monde dans lequel les Babyloniens se trouvent, ils les considèrent, en fait, comme le résultat d'un combat initial et, en fait, de la mise à mort de ce Tiamat qui permet ensuite à la société de s'organiser. Donc, la guerre est là quelque chose de créatrice. Vous avez cela aussi, ça, je vous le dis simplement en passant, aussi, dans la Bible, évidemment, on pense toujours au grand récit de la création au début du livre de la Genèse, mais vous avez par exemple le psaume 74 où Yahvé est en effet invoqué comme celui qui a fracassé la tête des dragons, qui a écrasé les têtes de Léviathan. C'est des monstres marins tout à fait comparables à ce qu'on trouve dans Enuma Elish, et qui, après cette victoire, puisse mettre en place les saisons, l'été, l'hiver, les bornes aussi de la terre, la lune et le soleil. Donc, voyez, dans la Bible comme dans le Proche-Orient ancien, le combat, la guerre est quelque chose de créateur. Donc, nous avons dans la Bible, évidemment, un héritage proche-oriental. La guerre est d'abord le moyen de rétablir l'ordre. Il n'est pas opposé à l'ordre, c'est un moyen de le rétablir. Ce que nous allons voir encore un peu plus en détail, la guerre est évidemment aussi, tout à l'heure, c'était déjà en effet annoncé dans vos propos, la guerre évidemment ne peut se séparer du politique. C'est un moyen d'affirmer la puissance du roi. Et finalement, à partir de cela, nous allons en effet constater dans les textes proche-orientaux et surtout dans les textes bibliques l'élaboration en fait de récits de guerre qui sont beaucoup plus des créations idéologiques que reflétant la réalité de la guerre. Donc on a là aussi parfois une certaine naïveté par rapport à l'utilisation des textes bibliques qui, dans la plupart des cas, reflètent plus des constructions idéologiques des auteurs qui ont vécu des siècles après des événements qu'ils rapportent qu'une réalité qu'on peut saisir directement. Alors, je ne sais pas pourquoi Free... Hop, voilà. Alors, donc, je disais légitimation du roi, et je voudrais juste commencer en vous montrant, en fait, ce sceau qui provient de Marie en Syrie, où vous avez en effet un roi qui piétine ses ennemis, qui sont du coup aussi donc assimilés au chaos, qui est évidemment entouré de deux déesses. Alors, important, les déesses sont aussi, ou peut-être presque plus mêlées à la guerre, davantage mêlées à la guerre que les dieux. Donc, la déesse la plus connue étant ici la déesse Ishtar, déesse de la guerre, amour et guerre, et qui, en fait, tient la même arme, c'est une sorte d'épée fossile, Khefesh, en Égypte, qui aussi est l'arme qu'utilise le Dieu. Restons un petit moment encore en Égypte et mentionnons la stèle du pharaon Merneptah. Alors cette stèle, elle est très connue parce que c'est la plus ancienne attestation du nom d'Israël que nous avons en dehors des textes bibliques, qu'on peut dater donc vers 1210 ou 5 avant notre ère. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui davantage, c'est la manière dont, dans cette stèle, en fait, le pharaon présente son expédition militaire qu'il a fait dans le Levant. Et vous verrez, ça confirme en fait de ce que je viens de dire, cette guerre contre différentes peuplades en Syrie, dont certains on peut plus facilement identifier que d'autres. Je ne vais pas discuter cela en détail. Mais ce qui est intéressant, c'est en effet ce qu'il proclame, c'est que cette guerre lui a donné les moyens de rétablir la paix. Les chefs tombent en disant « paix ». Pas un seul ne relève la tête parmi les neuf arcs, les neuf arcs étant les ennemis symboliques de l'Égypte. Tous les pays sont unis, ils sont en paix. C'est-à-dire, ils ont été battus, maintenant ils sont en paix. Et c'est là, dans ce contexte-là, qu'on trouve en effet la première mention d'Israël. Israël est détruit, sa semence même n'est plus. La Syrie est devenue une veuve. Donc, vous voyez, la guerre, c'est un moyen de rétablir la paix. C'est évidemment rhétorique. On dit Israël est détruit, il n'existe plus, sa semence. Ça peut être en effet la semence, ça peut être aussi le blé, c'est le même mot en Égypte, n'est-ce pas? Et détruit, non. Et c'est justement à partir de ce moment-là que Israël va entrer un peu sur la scène de l'histoire. Néanmoins, ce que affirme ici l'inscription, Israël n'est pas anéanti, mais pour l'inscription, ce qui est important, en effet, c'est de montrer que pour rétablir la paix, il fallait en effet anéantir, mais anéantir dans un sens symbolique, puisque, évidemment, le pharaon ou ses scribes savent, bien sûr, que ces peuples dont ils clament l'anéantissement sont toujours là, mais maintenant pacifiés. Et voyez, la stèle, en fait, comporte tout en haut une image qui est le même, presque le même que je viens de vous montrer de la Syrie. Donc, vous voyez, là aussi, il y a une sorte de stéréotype où vous voyez de nouveau le dieu Amon-Ré ici qui remet en fait au pharaon l'épée fossile avec laquelle il va pouvoir en effet mener son combat. Et la guerre, évidemment, va aussi provoquer une certaine comptabilité pour qu'on puisse en effet affirmer l'importance de la victoire. On va compter les têtes, ça peut être autre chose, ça peut être les pieds, les bras, parfois aussi les sexes des prisonniers, des prisonniers qui n'ont pas survécu justement au fait qu'ils ont été capturés. Quelque chose de tout à fait similaire se trouve plus proche d'Israël dans la stèle de Mécha. La stèle de Mécha que vous pouvez en effet admirer au musée du Louvre, mais qui pose en effet un problème important. Vous avez déjà vu que la guerre n'est possible qu'avec l'appui des dieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous allez perdre une guerre? Donc, est-ce que ça veut dire que votre Dieu vous a abandonné ou que votre Dieu s'est en effet fait battre par les dieux tutélaires de votre ennemi? Et c'est exactement ce problème qui se trouve dans la stèle de Mécha, parce que Mécha, roi de Moab, donc les voisins à l'est d'Israël, donc aujourd'hui la Jordanie, va en effet expliquer le fait qu'Israël avait en effet occupé une partie du territoire de Moab, c'est-à-dire en fait un territoire qui est toujours un peu, c'est un peu comme l'Alsace, entre Moab et Israël, n'est-ce pas? On va dire en fait, ça a été occupé par Israël à cause du fait que Kemosh ou Kamosh, le dieu moabite, s'était mis en colère contre son propre peuple. Donc c'est la colère du dieu tutélaire qui permet en effet aux autres de s'emparer d'une partie du pays ou même de remporter une guerre. Mais évidemment, cela ne va pas durer puisque Kemosh s'est ensuite repenti et a donné l'ordre à Mécha de refaire la guerre contre Israël. Et évidemment, c'est cette guerre-là qui est célébrée dans la stèle de Mécha, où en effet, il est dit que grâce à l'appui de Kemosh, Israël a été vaincu. Mais évidemment, la victoire de Mécha contre Israël, c'est aussi la victoire de Kemosh, donc le dieu de Moab, contre Yahvé. D'ailleurs, la stèle de Mécha, c'est pour la première fois, on a le nom Yahvé en quatre lettres, donc qui est évidemment dans cette stèle, dit avoir été en effet défait, puisque Mécha pouvait emporter les ustensiles, les vases de Yahvé, à savoir il y avait des sanctuaires de Yahvé dans le pays de Moab, qui a été en effet détruit par Kemosh. Donc, pour revenir à la question de l'idéologie de la guerre, il est clair que les divinités sont toujours impliquées. Vous ne pouvez pas avoir une guerre purement humaine. C'est impossible, c'est impensable même dans le Proche-Orient ancien. La guerre est toujours une affaire des dieux. Et d'où vient la question aussi des sacrifices? Des sacrifices, la stèle de Mécha mentionne déjà, en effet, un sacrifice sur lequel je vais revenir ensuite, le fameux Kherem. La victoire est toujours, en effet, due à l'aide de la divinité. Et donc, s'ensuit de la guerre, le pillage des temples, la déportation des statues, ça c'est très important, la déportation des statues des dieux. C'est très connu, la stèle de Mécha le sous-entend, les Assyriens vont le mettre en place de manière tout à fait organisée, ritualisée, à savoir que les divinités des peuples vaincus sont amenées dans les temples des dieux vainqueurs pour y faire allégeance, comme devaient évidemment aussi faire les rois et les peuples vaincus. Le Kherem, c'est le sacrifice qui va justement avec cette idéologie. Kherem, même racine que harem, mettre à part, séparer. Et l'idée qui est derrière le sacrifice, c'est très simple. Puisque la victoire est le résultat de l'intervention du dieu ou des dieux tutélaires, tout le butin, normalement, lui revient. Et c'est ce qu'on trouve dans plusieurs textes dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Samuel, Samuel reçoit l'ordre de vouer Amalek, ennemi un peu symbolique d'Israël, au Kherem, traduit par anathème, grâce ou à cause des traductions grecques, mais peut-être pas la meilleure traduction. Donc, en fait, il doit être mis à part, il ne doit pas être utile pour le roi ou le peuple, donc tout doit être tué, brûlé, pour le remettre à la divinité qui donne la victoire. Évidemment, si vous lisez la stèle de Mécha, vous vous rendez compte que c'est un discours purement idéologique. Parce qu'économiquement, c'est peu intéressant de tuer tous les prisonniers de guerre, de brûler tout le bétail ou les autres trésors qu'on a pu emporter. Et d'ailleurs, c'est aussi dit dans la stèle de Mécha, je mis tout en Kherem pour Kemosh, mais après je pris les prisonniers pour les faire travailler pour des constructions de canaux, etc. Donc il faut imaginer qu'il y a peut-être un ou deux prisonniers qui ont été en effet sacrifiés, quelques ânes peut-être aussi, et que le reste, en fait, évidemment, du butin a été utilisé. Dans la Bible, Yahvé est le dieu de la guerre par excellence. Et peut-être même, si vous vous mettez dans une perspective des sciences de religion, c'est peut-être une des premières fonctions du dieu Yahvé. Hein? Le dieu Yahvé, c'est un dieu de type Baal, à l'origine qui, en effet, est dieu de l'orage et de la guerre. Ça correspond assez bien, en fait, ce qu'on peut aussi voir avec Baal à Ougarit. D'ailleurs, plusieurs textes disent très clairement, c'est un Ish Milchama. Yahvé, c'est un homme de guerre, c'est un guerrier. Hein? C'est au psaume qui conclut la sortie d'Égypte, qui est aussi comme une guerre de Yahvé contre le Pharaon, ou encore ce psaume où, en effet, ça fait probablement allusion à une sorte de procession de la stèle de Yahvé, où, en effet, Yahvé est entré dans son temple, Yahvé le fort, le héros, l'homme de la guerre. Et cela, en fait, se reflète aussi dans le nom qui porte Yahvé très souvent dans ce contexte-là, Yahvé Tsevaot, Yahvé des armées. Alors, des armées terrestres ou des armées célestes? Probablement des dieux, des deux, parce que David, je reviens sur cette histoire dans un petit instant, David se présente à Goliath en disant que moi je viens vers toi au nom de Yahvé Tsevaot, le dieu des armées, des troupes d'Israël. Mais en même temps, évidemment, c'est peut-être même l'utilisation la plus fréquente, c'est l'idée que Yahvé commande aussi les armées célestes. Hein, il est évidemment chef de guerre à la fois pour les armées terrestres, mais aussi pour les armées célestes, toutes ces armées qui sont à ses services, ça peuvent être les étoiles, des dieux inférieurs, etc. Et ce nom de Yahvé Tsevaot, on le trouve aussi maintenant en dehors de la Bible, sur ce graffito du 8e siècle, où c'est en effet une malédiction, que soit maudit au nom de Yahvé Tsevaot. Donc il n'y a pas ici d'alternative, Yahvé est le chef de guerre pour les troupes d'Israël, mais aussi pour ce qui se passe dans les cieux, pour combattre le chaos et d'autres ennemis. Et cela correspond en fait aussi au fait que dans la description biblique des origines de la monarchie israélite, la guerre va jouer un rôle tout à fait significatif, primordial. Dans les livres de Samuel, vous avez plusieurs récits qui expliquent comment Israël est devenu une royauté. Et la tradition la plus ancienne, qui se trouve au chapitre 11 du premier livre de Samuel, c'est que Saül devient roi à cause de ses exploits guerriers, parce qu'il réussit à battre les Ammonites et après, évidemment, les Philistins. Les Philistins, ça va être les exploits de David, encore que, historiquement, c'est très troublant, parce que David était constamment un vassal des Philistins. Mais en même temps, il est en effet, il devient roi parce que il a plusieurs exploits. Un des grands exploits, évidemment, vous le connaissez tous, c'est Goliath. Et là aussi, c'est très troublant parce qu'il y a une autre petite notice dans la Bible où on apprend que ce n'est pas du tout David qui a tué ce Goliath, mais un dénommé Elchanan de Bethel. Bon, après, pourquoi on l'a pas censuré, on sait pas très bien. Mais après, évidemment, on a mis ça sur le compte de David. Ça, c'est aussi une stratégie, je dirais, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse chercher vous-même les exemples de ce transfert d'exploits militaires ou d'autres. Le grand exploit de David, c'est justement de vaincre les Philistins. Vous connaissez peut-être cette histoire aussi des prépuces de Philistins qui se distinguent justement des autres peuples du Levant par le fait qu'ils viennent de la Méditerranée, qu'ils ne sont donc pas circoncis. Et l'exploit de David, c'est d'amener à Saül un certain nombre. Le texte massorétique parle de 200, le texte grec de 100 prépuces, mais ça peut aussi faire allusion à cette pratique qu'on a aussi déjà en Égypte, que ce n'est peut-être pas simplement les prépuces, mais en effet les sexes masculins qui sont en effet de nouveau utilisés dans une certaine comptabilité. Donc David devient en effet roi parce qu'il se constitue une armée de guerriers. On parle des 30 braves, c'est en fait sa troupe rapprochée. Il devient fondateur de la dynastie, mais là c'est très intéressant. Il ne construit pas le temple. Normalement, dans le Proche-Orient ancien, un roi fondateur de dynastie doit construire le temple pour la divinité tutélaire. Pourquoi ce n'est pas le cas? Alors, la Bible est un peu empruntée. Dans les livres de Samuel, on n'explique pas du tout. Par contre, il y a après, dans le livre des Chroniques, qui en sont écrits quelques siècles plus tard, où Yahvé dit à David, « Tu ne bâtiras pas de maison pour mon nom, car tu es un homme de guerre. » Ish milchama, même expression qui est aussi utilisée pour Yahvé. Donc là, on a peut-être déjà les débuts d'une certaine réflexion sur le fait que la guerre n'est peut-être pas toujours le meilleur moyen de mettre en place une société. On va voir, je vous donnerai quelques exemples, qu'il y a à partir du 4e, 3e siècle, dans les textes plus tardifs, une sorte de réflexion sur la possibilité peut-être qu'on pourrait se passer de la guerre. Et peut-être dans les chroniques, on a déjà quelque chose de ce type-là. Alors, ce que je voudrais encore vous montrer très brièvement, c'est évidemment le phénomène que pour une guerre, vous pouvez avoir différentes versions. Et nous avons, c'est comme aujourd'hui, nous avons pour le récit biblique, là, une chance assez intéressante, à savoir que nous avons une guerre entre Israël et les Assyriens qui nous est relatée par le texte biblique, mais qui nous est également relatée par les inscriptions assyriennes. Et évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. C'est en fait une confrontation qui se situe sous le règne du roi Ézéchias, donc à la fin du 8e siècle, avant notre ère, où, en effet, le récit biblique dit que c'est grâce à l'intervention de Yahvé, ou plutôt de son ange, que Israël, ou Juda plutôt, est vainqueur et que, en effet, les Assyriens se retirent sans pouvoir prendre Jérusalem. C'est un événement, en effet, qui est tout à fait historique, qui se situe à 701 avant notre ère, mais qui oublie, en fait, de raconter ce que racontent les annales de Sennacherib, à savoir que les Assyriens ont détruit presque l'ensemble du royaume de Juda, qu'ils ont enfermé en fait Ézéchias à Jérusalem et que en fait c'était une situation tout à fait catastrophique pour le royaume de Juda. Mais dans la Bible, le fait que Jérusalem n'a pas été détruit pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on peut discuter est présenté comme la victoire de Yahvé contre les Assyriens. Alors que, en réalité, ce qui s'est passé après 701 été une situation vraiment très très difficile pour le pays de Juda, totalement dévasté, amputé de presque tout son hinterland. Il reste finalement que Jérusalem, mais dont la Bible s'était faite et en effet transformée en victoire éclatante, qui donne en fait l'origine de ce qu'on peut appeler un peu cette théologie sioniste, entre guillemets, à savoir que Yahvé va toujours défendre sa montagne sainte, le Sion, à Jérusalem. Donc là, nous sommes évidemment déjà dans ce qu'on peut appeler l'idéologisation des récits de guerre. Et dans ce contexte-là, comme le temps avance, je vais être assez bref, mais quand même mentionner le livre de Josué, parce qu'évidemment, quand on parle de la guerre dans la Bible, on ne peut pas faire l'impasse sur le livre de Josué, n'est-ce pas, qui a été d'ailleurs présenté, je crois que c'était l'abbé Pierre, comme étant le premier génocide de l'humanité. Parce qu'évidemment, si vous lisez ce qui se passe dans le livre de Josué, la conquête du pays de Canaan est décrit comme une sorte de blitzkrieg où en deux semaines, en effet, tout le monde est massacré, tué, et c'est ainsi que Yahvé donne la victoire à son peuple et légitime en quelque sorte l'installation d'Israël dans son pays. Alors ça, il faut le dire, je n'ai pas le temps maintenant à faire une démonstration détaillée, ça ne correspond à rien sur le plan historique. On sait aujourd'hui très clairement que Israël, en très grande partie, s'est constitué à partir des groupes autochtones. Donc l'idée que tout Israël sera venu de l'extérieur et aura pris possession du pays, c'est un mythe, et là il faut vraiment parler de mythe, qui en effet est construit surtout dans le livre de Josué à l'aide de la propagande militaire assyrienne. Ça, c'est très clair. À partir du 8e et 7e siècle, l'Assyrie est en effet la puissance dominante dans le Levant, dans tout le Proche-Orient ancien, et les Assyriens, de nouveau, vous pouvez aller dans le Louvre, voyez que c'est en fait peut-être les premiers qui utilisent aussi l'image pour leur propre propagande. Comme le voyez ici, dans la mise en scène d'une prise d'une ville, où vous voyez ici le roi Assurbanipal, qui est accompagné ici par un personnage dans un disque ailé, vous le voyez mieux ici, qui fait le même geste en fait que le roi, et qui est en effet le dieu protecteur Assur, probablement dans ce cas-là, qui donne la victoire à la Syrie. Donc l'idée du Dieu avec nous s'est située en effet déjà à cette époque-là. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la Première Guerre, bien au contraire, c'est une constante, je dirais, dans l'idéologie du Proche-Orient ancien, qui en effet toujours souligne la force des Assyriens aussi, en ne respectant pas du tout les proportions, en mettant les Assyriens aussi grands que la ville qu'ils sont en train d'attaquer. Et ce qui est très intéressant, c'est ces détails en fait qui vient de ce char. Bon, c'est juste dans l'autre sens. Vous voyez ici un char qui est amené, une char d'assaut qui est amenée vers la porte de la ville, mais vous avez un personnage ici qui tient pas du tout une arme, qui tient un rouleau déplié. Qu'est-ce qu'on fait avec un rouleau déplié au moment de l'attaque d'une ville? Ben, c'est quelque chose que nous avons aussi dans les récits bibliques, où en effet, on apprend dans le livre des rois, avant le siège de Jérusalem, les Assyriens amènent un haut fonctionnaire devant la porte de la ville qui tient un discours en hébreu, en judéen, et qui dit « Mais rendez-vous au roi d'Assyrie parce que votre Dieu ne vous sera d'aucun secours. » C'est une sorte de guerre psychologique qui est mise en scène, à savoir qu'il faut se soumettre en effet au plus puissant. Et du coup, évidemment, le roi d'Assyrie sera en effet l'ami aussi des Judéens. Cette propagande, on le trouve dans ce qu'on appelle les lettres aux dieux des rois assyriens qui écrivent en effet, qui font écrire plutôt par leurs scribes, à la fin d'une guerre, des lettres de remerciement aux dieux qui sont évidemment lues au peuple. Et vous avez ici un exemple assez intéressant où c'est Hadad, le dieu de l'orage, qui intervient et qui jette des grandes pierres, des immenses grelons du ciel pour annihiler l'armée ennemie. Et vous avez exactement la même reprise dans le livre de Josué que vous avez ici au chapitre 10, où ce n'est pas un dieu assyrien, mais où c'est Yahvé qui fait la même chose, qui en fait jette également du ciel des immenses grelons qui vont en effet annihiler les Cananéens. Donc, pour faire vite, on peut en effet comprendre le livre de Josué comme une sorte de construction littéraire, idéologique, ce qu'on peut appeler une sorte de contre-histoire, où on reprend en fait le discours militaire des Assyriens pour le tourner d'une certaine manière contre les Assyriens. On a toujours remarqué que les peuples que les Hébreux sont en train de battre, les Hivites, les Périssites, les Girgashites et d'autres, on peut pas très bien les identifier. Ça correspond pas à des entités historiques. Et les Hittites, qui sont aussi parfois mentionnés, elles ont rien à faire dans le Levant, ils sont plus haut en Anatolie. Donc, déjà, les rabbins avaient dit, en fait, ces peuples qui sont en train d'être vaincus par les Hébreux, c'est peut-être un symbole pour quelqu'un qu'on ne veut pas nommer, et c'est probablement le cas, à savoir que c'est un récit qui, d'une certaine manière, est tourné contre les Assyriens, mais qu'on peut, et pour des raisons évidentes, pas nommer. Donc, si vous voulez, vous avez dans le livre de Josué une sorte de reprise d'une idéologie de guerre assyrienne, mais qui est tournée, en fait, contre les Assyriens. Mais ça ne veut pas dire que la relation avec les autres peuples, je prends encore juste 3-4 minutes, ne peuvent être résolues que par la guerre. À ce moment-là, il faut très très brièvement rappeler le pacifisme des traditions des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, à l'exception d'un seul texte, inséré sans doute assez tardivement du chapitre 14 de la Genèse, la guerre, en fait, ne joue pas de rôle pour résoudre les conflits. Déjà, le grand exégète Wellhausen avait dit un peu à regret les héros de la légende israélite, à savoir les patriarches, montrent peu de goût pour la guerre. Et c'est vrai que dans le livre de la Genèse, la situation est très très différent, à savoir les Moabites et les Ammonites qui, dans la stèle de Mécha et dans le livre des rois, apparaissent comme les ennemis presque héréditaires d'Israël, sont maintenant liés à Abraham par des liens de parenté. Hein ils sont soit les descendants du neveu ou du frère d'Abraham, là on ne sait pas très bien, également, les descendants directs d'Abraham sont les Ismaélites et Madianites, à savoir les ancêtres des tribus arabes, hein, qui sont également rattachés à Abraham. Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham. Et donc, de nouveau, il n'y a pas de guerre, il y a des conflits, mais ils sont résolus autrement. Et même les Philistins, tellement horribles dans l'histoire de Samuel, apparaissent en fait comme des gens tout à fait civilisés, représentés par un dénommé Abimelech, sans doute pas un personnage historique, mais qui offre en fait à Abraham, à Isaac, l'hospitalité qui leur permet de s'installer chez eux et qui, en effet, sont, contrairement à ce que dit Abraham, présentés comme étant des personnages tout à fait fréquentables qui ont la crainte de Dieu, contrairement à ce que pensait Abraham dans un certain chapitre 20. Donc, le don du pays que Yahvé fait aux patriarches n'implique pas, dans ces récits-là, la guerre. Et ça, c'est une grande différence entre la tradition des patriarches et la tradition de l'Exode et de la conquête, où le don du pays signifie nécessairement la conquête, alors que, dans les récits des patriarches, le don du pays, il est donné, en fait, à la sémence d'Abraham, Mais la sémence d'Abraham, en fait, inclut tout autant Ismaël et bien d'autres descendants qu'il a au chapitre 25 avec une dénommée Keturah. Donc les conflits territoriaux, ben, ils sont résolus, comme au chapitre 13, par la négociation, à savoir que Abraham dit à l'autre, donc on ne peut plus cohabiter, vas-y quelque part, machai, je vais aller ailleurs. Évidemment, l'autre, malheureusement pour lui, il choisit Sodome, Gomorrhe, ça va mal se passer. Mais ce n'est pas ici une guerre entre Abraham et Lot. Je vous disais tout à l'heure que vous avez, dans des textes très très récents de la Bible, cette idée de la fin d'une guerre. Peut-être l'oracle le plus connu étant un oracle qui, d'ailleurs, transmis deux fois, une fois dans le livre de Michée et une autre fois dans le livre attribué au prophète Ésaïe. Et l'idée, en effet, c'est que les nations vont tous se tourner vers le Dieu d'Israël. Donc là, on est déjà un peu dans cette idée universaliste, mais surtout cette idée que, martelant leurs épées, ils en feront des socs et de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus épée contre nation contre nation, on ne prendra plus la guerre, ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier. Donc l'idée, c'est en effet que les armes de guerre vont servir à l'agriculture, etc. Et puis, on aime toujours terminer l'exposé sur la guerre avec ce magnifique verset. Mais ce n'est pas aussi simple, parce que vous avez un autre verset qui reprend cela en le détournant. Et ça, c'est en effet dans le livre de Joël, où, en effet, on retourne la chose « De vos socs, forgez de vos épées, forgez des épées, de vos serpes, forgez des lances. » Donc, c'est une sorte de réaction, en fait, à cette idée, les armes de guerre, bah, on va les transformer, voilà, des outils, et là, non, on va les réutiliser pour des armes de guerre, parce que maintenant va se mettre en place cette idée d'une guerre universel à la fin des temps. Bon, vous avez demain un exposé du professeur Filonenko qui va vous donner plus de détails de cela, mais c'est cette idée, en fait, de la guerre eschatologique qui adviendra à la fin des temps, en fait, qui n'est rien d'autre que une sorte de reprise du thème de la guerre contre le chaos ou contre le mal avec lequel j'ai commencé l'exposé. Hein ? Ce que vous avez dont la mise en scène de Gog et Magog, qui a encore joué un rôle important pour le président Bush, qui pensait en effet que ces aventures dans l'Orient lui permettraient de mettre fin aux forces du mal, bah, tout cela, en fait, dans les textes bibliques, reprend cet ancien mythe du combat contre le chaos. Et on le retrouve, bien sûr, à Qumran, avec le rouleau de la guerre, les fils de lumière, ça va la communauté de Qumran, qui va affronter les fils des ténèbres, ou dans l'Apocalypse, dont je vous ai déjà parlé aussi au début de l'exposé, comme étant le combat final contre le Satan et son armée. Donc, mais ça, c'est rien d'autre. Alors là, le Colette, il a raison, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que tout cela n'est rien d'autre que la reprise d'un thème du troisième millénaire avant notre ère, à savoir la guerre du Dieu créateur contre les forces chaotiques, comme vous le voyez dans l'Apocalypse de Jean, où c'est Michaël qui terrasse le dragon, ou dans Star Wars, où vous avez en effet aussi les forces du mal contre les forces de lumière. Donc, très brève conclusion, la Bible hébraïque, en effet, concède une place très importante à la guerre. Elle est omniprésente, non pas seulement dans la Bible, mais dans l'ensemble du Proche-Orient ancien. Les textes bibliques, ils ne peuvent pas être, et là je suis tout à fait opposé à Gérard, on ne peut pas séparer la Bible du contexte du Proche-Orient ancien. Ils participent à la même idéologie par rapport à la guerre. Il y a, comme je vous ai dit, des réflexions sur la possibilité de la disparition de la guerre, mais en même temps, la guerre se maintient dans l'idéologie du combat contre le chaos et les forces du mal. Merci beaucoup.